qui concerne Charlotte Arthur, elle ne peut s'empêcher de considérer ces faits anatomiques comme des circonstances aggravantes qui, ajoutées à la liste dressée par ses soins de leurs nombreux vices, leur arrogance, leur prétention, leur compétitivité, leur foi absolue dans leur mérite et leur légitimité, la satisfaction évidente qu'ils éprouvent à être eux-mêmes renforce la détestation qu'elle leur voue. Elle les a pourtant vus quelquefois à Paris où elle les avait trouvés, si improbable que cela lui paraisse aujourd'hui, plutôt sympathiques. Cette impression fallacieuse s'est entièrement dissipée avant même la fin du premier jour des vacances. Elle ne connaît pas les amis d'Alban, pense-t-elle, ni cela ni les autres. L'enchaînement des périodes de confinement ne lui a pas laissé le temps de les fréquenter, sans compter que la divergence totale de leur centre d'intérêt a désormais perdu tout l'attrait du charme exotique qu'il eut un jour à ses yeux. Ne demeure plus que l'ennui et l'exaspération.
Quelle épouvantable connasse, pense-t-elle alors que Charlotte mobilise vigoureusement sa grosse bouche humide pour émettre avec assurance d'ineptes considérations géopolitiques.
La même bouche qui s'ouvrira pour lancer bientôt un cri d'horreur, sur le port, au pied des grands yachts. Au désespoir de Chérine, Alban semble s'intéresser à ce qu'elle raconte jusqu'à donner des signes manifestes d'approbation. Elle partage sa vie depuis un an et demi. Elle sait qui il est avec ses parents. Elle sait surtout qui il est avec elle. Elle ignore tout ce qu'il est avec les autres. Et lui, se demande-t-elle. Quand donc l'ai-je connu ?
Oui, ma chère petite.
Oui, murmure le très puissant Jean.
Tu ne le connais pas, alors va-t'en. Va-t'en, ma petite, tout de suite.
Un grand souffle de vent chaud fait frémir le feuillage des oliviers pour un instant à la surface des eaux de la piscine, se forment des vagues ressemblant à celles de la mer furieuse.
Vous êtes allé dîner une première fois dans l'établissement géré par le suspect, Alexandre Romani, le 18 août dernier, c'est bien cela?
Oui, mercredi.
Et ils y sont retournés avant-hier. Moi, je ne voulais pas les accompagner. Alexandre Romani est assis près de la caisse à l'entrée du restaurant, dans un grand fauteuil d'osier où il fume des cigares, en buvant du rhum brun tandis que les serveurs saisonniers s'affairent autour de lui. Il se lève pour accueillir Alban.
« Tu te souviens de Chérine ?»«
Oui, » répond Alexandre, « bien sûr. » Et il la salue très chaleureusement avant de tendre la main à Arthur et de faire la bise à Charlotte. Après leur avoir signifié d'un haussement d'épaule qu'ils se désintéressaient absolument de leurs attestations sanitaires, il les conduit à la table qu'il leur a réservée, en bord de terrasse, tout près de la mer. Il leur offre un apéritif et retourne s'asseoir dans son grand fauteuil après leur avoir souhaité bon appétit. Il revient vers eux, tout souriant, après qu'une serveuse leur a distribué des menus qu'un rapide coup de lingette désinfectante est censé avoir rendu inoffensifs.
On vient de recevoir un vin qui n'est pas encore à la carte et mon père m'a dit qu'il est très bon. Vous voulez le goûter ?
Alban répond qu'ils le goûteront volontiers. Et, dans la gendarmerie, face à l'adjudant-chef Séverine Bogossian qui la regarde avec une évidente compassion, Chérine se mit soudain à pleurer comme une enfant que toute la puissance du très puissant Jean ne parviendrait pas à consoler.
Pourquoi est-il revenu nous voir ? Pourquoi n'est-il pas resté dans son fauteuil avec son rhum et son cigare? C'est tellement bête. Vous comprenez? S'il était juste resté assis... Oui, c'est bête, en fait. C'est presque toujours très bête. Mais il n'est pas resté assis. Et il n'y a rien que vous puissiez faire.
Le vin n'était pas si bon que ça. Mais comme le découvre Alban en ouvrant des yeux effarés sur l'addition, il est hors de prix. Charlotte fait valoir qu'elle n'en a bu qu'un demi-verre et s'oppose donc à l'injustice que constituerait à ses yeux une division en parts égales de la note. Après quelques minutes de calcul scrupuleux, chacun paye ce qu'il doit et il se dirige vers la sortie sans qu'Alexandre, alors occupé à ouvrir une nouvelle bouteille de rhum, semble remarquer la froideur pourtant manifeste d'Alban à son égard. Toute la soirée, ils parlent du prix du vin. Le lendemain matin, ils en parlent encore. « On pourrait passer à autre chose ?» demande Chérine avec humeur. Mais ils ne veulent pas passer à autre chose. Ils sont scandalisés, ils ont tous été victimes d'un vol pur et simple, d'une escroquerie infâme, y compris Charlotte qui, rappelle-t-elle, a dûment réglé la somme correspondant au demi-verre.